Je lui avais pas dit des choses gentilles à propos de Jonathan. Je lui avais dit à propos du livre, merci pour tout ce que tu as dit. Non, j'espère que ça vous a donné envie de, donc d'acheter Quand Dieu fait route avec nous, de le lire surtout. Nous avons ce matin parlé de défis, notamment les défis que nous rencontrons quand certaines de nos valeurs, dans le domaine de l'éthique ou de la moralité, entrent en conflit avec celles de nos contemporains. Nous avons parlé du défi de considérer notre foi sous l'angle de l'espérance, non pas des règles ou des pratiques. Et cet après-midi, nous allons parler du défi encore plus difficile peut-être, qui est de présenter notre foi comme une espérance. En être convaincu soi-même, c'est une chose. Arriver dans la façon dont les gens observent la foi chrétienne chez nous, à faire passer cet aspect essentiel de la foi qui est l'espérance, c'est un réel défi. Je dirais que c'est le plus grand défi éthique de notre époque. Tout à l'heure, nous aurons un temps de dialogue autour de ces questions, mais j'aimerais vous inviter déjà à relire le texte de 1 Pierre chapitre 3, qui est le fondement de notre réflexion aujourd'hui. 1 Soyez toujours prêts à vous défendre face à tous ceux qui vous demandent de justifier l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect, nous dit Pierre. En quoi consiste l'approche recommandée par Pierre ici? Que veut-il dire par justifier l'espérance? Que veut dire Pierre en nous demandant de le faire avec douceur et respect? Ce matin, nous avons parlé de l'importance d'être convaincu de notre espérance, d'être enraciné dans cette espérance. Non pas comme s'il s'agissait d'un principe ou d'une philosophie, mais dans la compagnie, l'accompagnement quotidien de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet après-midi, nous allons réfléchir ensemble sur cet impératif qui nous est donné de projeter cette espérance en dehors de l'Église. Parfois, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mais parfois je montre un petit dessin humoristique où on voit deux personnes au bord des douves d'un château. Et c'est un château fort. Et l'un est en train de dire à l'autre, « Oh, regarde, ils sont en train d'abaisser le pont-levis. » Et en fait, le château fort a la forme à un clocher, à une grande croix dessus. Il dit, « Oh, regarde, ils sont en train d'abaisser leur pont-levis pour franchir la douve. Ça doit être le moment de leur prochaine campagne d'évangélisation. » Et parfois, dans la façon dont nous pratiquons notre ouverture envers ceux qui ne croient pas comme nous, qui ne partagent pas nos valeurs ou qui ne connaissent pas le Seigneur, nous avons l'impression, ou nous leur donnons l'impression, d'être bien dans nos murailles. Et puis, de temps en temps, nous daignons abaisser un pont-levis. Pourtant, quand nous lisons la façon dont Jésus parlait à ses disciples, relisez Jean 17, vous verrez que Jésus était intimement préoccupé par l'image que les observateurs avaient lorsqu'ils regardaient les disciples, lorsqu'ils regardaient les chrétiens vivre, parce que nous reflétons la gloire de Dieu. Il y a quelques années de ça, bien que j'ai grandi en France et bien que je suis en France depuis ma toute petite enfance, avant la maternelle, nous, selon où nous allons, nous sommes considérés un peu comme des bêtes curieuses, des étrangers. Et un jour, il y a pas mal de temps de ça, nous étions en Provence et un de nos voisins, on a déménagé dans un nouveau voisinage. Et un de nos voisins était une figure locale, une sorte de bon, c'est un patron d'une entreprise et politicien dans l'opposition municipale, donc il aimait bien cultiver un peu ses réseaux de relations. Et il nous a invités à venir manger un soir avec d'autres voisins chez eux. Et leur fils, qui avait, je ne sais pas, 17 ans à l'époque, il était assez curieux de rencontrer, c'est la première fois, si j'ai bien compris, qu'ils avaient rencontré des protestants. Et leur fils, première question qu'il me pose, c'est « Vous, les protestants, vous avez le droit de faire quoi, alors ?»« Vous, les protestants, vous avez le droit de faire quoi, alors ?» Ce jeune homme pensait à des règles, à des interdits, comme beaucoup de nos contemporains. Un de nos principaux défis, c'est de leur présenter la foi donc comme une espérance, non pas comme un ensemble de règles. Comme Pierre nous le demande, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous demande de le faire dans le verset de notre journée. Présenter, répondre, rendre compte, défendre l'espérance qui est en nous. Nous vivons dans un monde qui nous observe, mais qui ne nous comprend pas. J'ai voulu souligner une tension que nous connaissons presque tous, en tout cas si nous avons cherché à expliquer notre éthique, c'est-à-dire nos principes de vie chrétienne, à des personnes que nous côtoyons et qui ne connaissent pas Dieu. Très souvent, nous devons affronter leur incompréhension, parfois même leur opposition. En effet, nos principes peuvent leur sembler contraignants, limitatifs. Au lieu d'être les indicateurs de notre espérance, nos principes chrétiens, notre façon de vivre, nos principes sont vus comme les signes d'un asservissement. Mon pauvre, tu es obligé d'aller au culte tous les dimanches matin ? Ben non, je ne suis pas obligé. J'y vais pas forcément tous les dimanches, presque, mais pas tous. Mais je n'y suis pas obligé. Et puis, tellement d'autres règles. Ils nous voient vivre, et si nous ne faisons pas attention, ils ne voient que les principes, ils ne voient que les habitudes, ils ne voient que les règles. Nous devons donc trouver les moyens, une fois que nous sommes convaincus de la valeur de notre espérance, de sa réalité, nous devons trouver les moyens de partager cette espérance de manière à faire envie. C'est ce que Pierre veut dire en disant « justifiez votre espérance » ou « défendez votre espérance ». Justifier notre espérance, c'est répondre aux questions, aux vraies questions. C'est écouter pour savoir entendre les vraies questions. J'ai grandi avec un enseignement qui m'a certainement, dans bien des domaines, préservé de certaines choses, mais qui m'a aussi fermé les yeux à d'autres choses. Pour moi, dans l'Église, c'était les bons, et en dehors de l'Église, c'était les mauvais. En fait, c'est un peu l'impression que j'ai eue en grandissant. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens vraiment difficiles, des gens mal intentionnés, y compris dans les églises, qu'il n'y avait pas une bonne limitation claire entre l'intérieur et l'extérieur de l'Église, qu'il y avait des gens très bien à l'extérieur de l'Église et des gens très mauvais à l'intérieur de l'Église. Et en grandissant, puis en exerçant un ministère moi-même, je me suis rendu compte aussi que les personnes qui pouvaient me faire le plus de mal n'étaient souvent pas forcément ceux avec qui j'avais le plus de désaccords. Ça pouvait aussi être des personnes qui, d'apparence en tout cas, il nous semblait avoir beaucoup de choses en commun. Et je me suis rendu compte de l'importance que nous avions pour notre témoignage de rester à l'écoute des vraies interrogations des personnes qui nous entourent. Il ne s'agit pas de plaquer nos réponses. Nous avons des réponses. Nous connaissons celui qui les a. Même si nous ne les avons pas toutes les réponses, nous connaissons celui qui les a. Mais simplement donner des réponses sans avoir pris le temps d'incarner nos réponses dans le contexte des réelles interrogations et des réelles préoccupations de nos contemporains, ça ne mène à rien. Nous pouvons avoir raison dans notre message. Notre message peut être entièrement juste et vrai. Si cette vérité ne se branche pas dans la vie des personnes que nous côtoyons, nous avons gaspillé notre temps et notre énergie. Et brancher les vérités de l'Évangile dans les préoccupations de nos contemporains nécessite de les écouter. Je ne parle pas juste de les inviter pour un café, comme ça on aura l'occasion de leur apporter un témoignage. Je parle de savoir être là avec eux, à vivre leur vécu, à voir les mêmes, à lire les mêmes livres, regarder les mêmes émissions, nous préoccuper des mêmes thèmes. Cette écoute a une composante culturelle. cette écoute a une composante culturelle. J'ai toujours dit, j'ai beaucoup travaillé avec les artistes, j'ai toujours dit que l'art est un bon miroir sur l'âme de notre société. Que ce soit le cinéma ou l'art contemporain, j'aime beaucoup faire les expos, musées, j'aime beaucoup aller au théâtre, j'aime beaucoup aussi regarder du... Enfin, j'allais dire du n'importe quoi. Non, pas du n'importe quoi, mais des choses qui ne sont pas du tout prises de tête, que ce soit sur Internet ou au cinéma. Parce que ce sont aussi des façons de savoir ce qui intéresse ceux qui nous entourent. Et par exemple, une des choses dans le christianisme aujourd'hui que Patrice vous a montré tout à l'heure, depuis quelques mois, le rédacteur en chef m'a demandé de faire une chronique, une rubrique. Donc tous les mois, je fais l'analyse d'un chant, enfin l'analyse. Il me donne que 2000 signes, donc c'est très court, je n'ai pas le temps de m'étendre. Mais je prends un tube qui est passé, bon, le mois dernier, Prince est mort, donc j'ai fait une chronique sur Purple Rain, son titre phare. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il était témoin de Jéhovah, alors qu'est-ce qu'il a mis là-dedans? Puis il y a beaucoup, j'ai aussi parlé du groupe Téléphone, j'ai parlé de AC/DC, le fameux Highway to Hell. Tout ça, je le dis parce que nous devons, en tant que chrétiens, entendre les interrogations que les gens se posent. Si nous ne sommes pas à l'écoute des vraies questions, nos réponses ne correspondront pas. C'est une écoute qui doit être culturelle. C'est une écoute qui ne doit pas chercher à plaquer des réponses toutes faites. Moi, en grandissant, j'avais compris que tous les non-chrétiens étaient malheureux. Ben, c'est faux. C'est ce qu'on m'avait dit, c'est ce qu'on m'avait inculqué. C'est faux. J'avais compris que tous les chrétiens étaient heureux. C'est faux. Une écoute qui ne cherche pas à plaquer nos réponses toutes faites. Une écoute qui sait dire « je ne sais pas ». Vous n'imaginez pas la puissance d'un chrétien qui dit la vérité quand il ne sait pas. Dieu n'est jamais glorifié lorsque nous cherchons à donner des réponses lorsque nous ne les avons pas. Lorsque nous ne savons pas, Dieu aime la vérité. Dieu déteste le mensonge, y compris quand le mensonge est dans l'Église. Et quand une question est une vraie question, quand elle traduit une vérité, et que nous n'avons pas la réponse, ou que nous ne la connaissons pas, il n'y a rien de pire que de chercher à prétendre que nous l'avons quand nous ne l'avons pas. Une écoute qui sait dire « je ne sais pas ». Parce que c'est une écoute vraie. Mais notre écoute... Et c'est là où nous devons veiller. Je parle parfois de l'évangélisation de la seconde tasse de café. Quand nous formions nos volontaires à Signe de vie SIDA, vous savez, il y avait des gens qui disaient, les gens qui ont le SIDA, ils vont mourir vite. Ce n'est plus le cas maintenant, mais à l'époque, quand on a commencé en 93. À l'époque, c'était le cas. Le SIDA, c'était une condamnation à mort à relativement brève échéance. Il y avait des gens qui étaient pressés d'annoncer l'évangile. Je disais non, nous sommes dans le business de l'évangélisation de la seconde tasse de café. Si tu as tout dit à ton auditeur de l'évangile, de Jésus à la croix, du pardon que Dieu, de l'enfer, du paradis, autour de la première tasse de café, ben jamais la personne va revenir pour une seconde tasse de café. Et l'essentiel, c'est de prendre un autre café avec eux pour développer la relation. Parce que ce n'est pas tout de dire des mots, ce n'est pas tout de plaquer des vérités, il faut développer ça dans la relation. Nous avons une espérance à partager, non pas des faits, non pas des déclarations, une espérance. Ce n'est pas la même chose. Et donc, c'est une écoute qui doit devenir réponse quand l'Esprit de Dieu ouvre la porte. Moi, je suis décomplexé par rapport aux personnes à qui je parle. Si je n'ai pas l'occasion de tout dire, de tout déballer, de tout donner, de... la vérité, la belle vérité de l'espérance de l'évangile en une fois. Dieu est à l'œuvre. Un des auteurs que j'aime énormément, qui s'appelle Eugene Peterson, je le décris parfois comme un pasteur-poète. C'est quelqu'un qui sait tellement bien manier, et d'un côté la poésie, et de l'autre côté le rôle pastoral et l'écriture pastorale, le commentaire biblique. C'est un bibliste qui a traduit toute la Bible d'après les textes d'origine aussi, en langage contemporain. En anglais, c'est un américain. C'est lui, vous avez peut-être vu, certains parmi les plus jeunes ici, vous avez peut-être vu sur Internet ces derniers temps des clips vidéo de Eugene Peterson, ce pasteur, avec Bono de U2, en train de faire tout un travail ensemble. Ils ont beaucoup, Bono apprécie beaucoup la traduction de la Bible de Eugene Peterson. Mais Eugene Peterson a dit une chose qui a révolutionné mon ministère. Il a écrit une chose qui a révolutionné mon ministère. Il dit, vous connaissez, si vous avez été un peu dans le travail pastoral ou si vous avez été responsable de groupe de jeunes ou vous avez voulu aider en tant que chrétien, de chrétienne, quelqu'un qui a des soucis ou qui se pose des questions. Et vous savez de quoi Peterson parle quand il dit « Vous êtes là, au volant, vous venez de trouver une place de parking et vous apprêtez à rentrer dans peut-être un salon, une cuisine de quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a des problèmes. » Et vous êtes là et vous êtes en train de vous serrer le volant, vous avez trouvé la place de parking, vous serrez le volant et vous lancez une dernière prière vers le ciel en disant « Seigneur, accompagne-moi dans cette maison, accompagne-moi dans cette visite, Seigneur, parle. » Il dit « Détendez-vous, relax. Tu y es déjà. Dieu est déjà dans l'appartement en question. Il est déjà dans la vie de ces gens. Il a déjà une histoire en cours dans la vie de tout le monde. » Alors, c'est énorme aussi pour ceux que nous connaissons, que nous aimons, et peut-être qui ne connaissent pas le Seigneur ou qui le refusent. Le Seigneur a déjà une histoire en cours dans la vie de chaque personne. Et donc, l'essentiel pour nous et notre ministère, notre témoignage, la communication de cette espérance, c'est être là au bon moment pour dire, pour être ce que j'appelle une porte, être une porte ouverte sur l'espérance. Notre rôle, c'est d'ouvrir les portes, non pas de convaincre les gens à rentrer. Notre rôle, c'est d'ouvrir les portes, non pas de convaincre les gens à rentrer. Je le dis de cette manière-là parce que, en fait, la plupart du temps, ça se manifeste de la façon suivante. Nous cherchons à convaincre les gens que nous avons raison. Si nous sommes des chrétiens qui avons besoin de convaincre les autres que nous avons raison, eh bien, il manque une dimension essentielle à notre foi. Je n'ai pas besoin que les gens soient d'accord avec moi pour être bien dans mes baskets de chrétien. En tant que chrétien, nous devons avoir cette assurance. Nous connaissons le Créateur de l'univers. Dieu a tout fait, a tout mis en œuvre pour nous sauver parce qu'il nous aime. Nous n'avons pas besoin de convaincre les gens que nous avons raison pour nous sentir bien. C'est lui, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous fait nous sentir bien. Nous n'avons pas besoin de convaincre. Attention à ce désir de convaincre. Nous connaissons tous des chrétiens comme ça. Ils ont besoin de convaincre. Ils ne sont bien que quand ils sont entourés de gens qui sont du même avis qu'eux. Le problème, c'est que cette attitude-là démontre une fragilité, un manque de foi même. Proclamer sans écoute et sans dialogue, ça transmet l'idée, consciemment ou inconsciemment, qu'on craint d'être remis en question. Un chrétien bien dans ses baskets ne craint pas d'être remis en question. On n'a pas toutes les réponses. On connaît celui qui les a. Nous n'avons pas besoin que les gens soient d'accord avec nous pour vivre notre espérance. Sinon, c'est que nous vivons notre espérance par la médiation des autres. Nous devons apprendre à vivre directement dans la relation avec le Seigneur. Et c'est comme ça aussi qu'on peut supporter, surmonter des problèmes dans les églises, des amis chrétiens qui s'avèrent ne pas être aussi bons amis qu'on croyait. Pourquoi ? Parce que notre foi ne dépend pas d'eux, notre foi dépend directement du Seigneur. Et puis il y a cette qualification de l'ordre que nous donne Pierre dans ce texte. Faites-le avec douceur et respect. Pierre assortit donc son commandement de justifier l'espérance qui est en nous avec cette recommandation. Nous devons le faire dans un esprit de douceur et de respect. Ce sont des aspects du discours chrétien, notamment dans le domaine du débat éthique public, qui manquent souvent à notre témoignage. Le témoignage chrétien n'est pas un champ de bataille entre les bons et les méchants. Lorsque je pense à tout ce qui s'est dit, par exemple, autour du mariage pour tous, je ne vais pas rentrer dans ce débat ici et maintenant, ce n'est pas le propos, mais de part et d'autre, on aurait eu parfois l'impression que l'essentiel de la foi chrétienne se jouait sur un terrain de bataille. Très souvent, dans le domaine des débats éthiques, nous vivons notre foi dans un contexte d'affrontement, de proclamation. Parfois même, de mépris envers ceux qui ne partagent pas nos convictions. Les valeurs éthiques sont souvent l'objet de conflits entre l'Église et la société. Le premier défi éthique du monde moderne reste celui de tous les siècles passés. Ça n'a pas changé. Celui d'avoir un témoignage dans un esprit de douceur et de respect. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure à propos d'une réelle écoute fait partie aussi de mon propos. Notre priorité, ce n'est pas d'avoir raison. Ce n'est pas de gagner la discussion. Notre priorité, c'est de présenter celui qui est notre espérance. Et quand nous sommes engagés dans un débat éthique, qu'il s'agisse d'avortement, qu'il s'agisse d'euthanasie, qu'il s'agisse d'homosexualité ou du droit de la famille, qu'il s'agisse de l'honnêteté financière, qu'il s'agisse de nos choix bancaires ou d'investissement, qu'il s'agisse de notre honnêteté sur la feuille d'impôt lors d'une déclaration d'assurance, peu importe. Dans tous ces domaines-là, ce qui compte, c'est que nous restions dans ce schéma d'une espérance. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir raison, ce n'est pas de gagner la bataille, c'est de présenter celui qui est notre espérance, qui est Jésus. Nous nous trompons d'objectif si nous pensons que la priorité, c'est de gagner la bataille. Notre priorité reste que des hommes et des femmes passent l'éternité auprès de Dieu, après avoir été réconciliés avec lui et pardonnés pour leurs péchés. De manière un peu provocante, surtout lorsque, comme j'ai été aumônier des malades du sida pendant une quinzaine d'années, c'est une question qu'on m'a très très souvent posée. Comment, toi qui te dis chrétien, évangélique de surcroît, l'association Signe de vie sida a été affiliée à ce qui s'appelait la FEF à l'époque, Réseau FEF aujourd'hui, comment toi qui as tes racines dans les milieux CEF en France, tu peux passer autant de ton temps avec les homosexuels? Une des choses provocantes que je disais, c'est que Jésus, il n'est pas mort pour transformer les homosexuels en hétérosexuels. Jésus, il est mort pour nous réconcilier tous, quelle que soit notre sexualité, avec Dieu et que nous passions l'éternité avec lui. Notre priorité, nous ne devons jamais perdre de vue que notre éthique, que toutes nos éthiques, que ce soit la sexualité, que ce soit la vie, la dignité humaine, que ce soit la pauvreté, la richesse, tous les domaines éthiques doivent passer en second plan par rapport à notre priorité qui est l'éthique de l'évangélisation, qui est l'éthique de l'espérance, que les gens, les hommes, les femmes, ceux que nous aimons, soient pardonnés pour leurs péchés et aient accès à la vie éternelle. J'ai récemment eu le privilège d'interviewer pour le magazine, un des magazines qui était là-bas, Servir en l'attendant, donc qui est l'organe mensuel, le périodique des églises CAEF, d'interviewer une amie qui est pasteur de l'église évangélique libre de Valence. Elle s'appelle Gemma Taboyan, certains d'entre vous l'ont peut-être écoutée déjà, elle est conférencière. En tout cas, vous avez peut-être entendu parler d'elle. Et le thème de ce numéro du magazine, c'est « Aimer ses ennemis ». Alors, les grands-parents de Gemma ont survécu, vous avez peut-être deviné à son nom, Gemma Taboyan, qu'elle est arménienne, et les grands-parents de Gemma ont survécu au génocide arménien en Turquie au début du XXe siècle. Et j'aimerais vous lire, je vais vous lire ses mots à elle, la conclusion de son témoignage qui paraîtra justement dans les semaines qui viennent. N'oubliez pas, le thème, c'est aimer ses ennemis. Voici ce que Gemma a dit. Alors, après, elle a raconté dans son témoignage, elle raconte comment son grand-père est parti travailler au champ avec ses fils, et ils ne sont jamais revenus. Et donc sa mère, quand elle a vu que son mari et ses fils avaient été tués, elle a fui avec la grand-mère de Gemma et ses sœurs. Et donc Gemma, arrière-petite-fille de ceux qui ont survécu, dit la chose suivante. Aimer ses ennemis, c'est plutôt une question de survie. Je ne vais pas céder à la haine, rien que pour ne pas laisser l'ennemi l'emporter sur moi. Le pasteur de l'église évangélique arménienne d'Istanbul, son objectif, c'est qu'il y ait le plus de Turcs possible qui se convertissent. Évidemment, la première chose, c'est pour qu'ils aient la vie éternelle. Mais c'est aussi la meilleure vengeance possible. Il ne peut pas y avoir de meilleure réparation pour le génocide que les descendants de ceux qui ont tué nos aïeux connaissent l'Évangile. Ce pasteur m'a convaincu que nos ennemis viennent à Christ est une vengeance, et elle met « vengeance » entre guillemets, une belle vengeance. Fin de citation. La priorité de tous les conflits spirituels que nous pouvons vivre aujourd'hui, c'est le partage de cette espérance. Le partage de l'Évangile comme une bonne nouvelle, comme une espérance. Il ne nous suffit pas de le dire, bien sûr, il faut aussi l'incarner. Il faut aussi l'incarner dans notre vécu quotidien, dans nos conversations autour de la table du repas, dans nos trajets en voiture, lorsque nous emmenons les enfants à l'école, lorsque nous réagissons aux difficultés professionnelles au bureau, dans la salle de classe, ou lorsque nous affrontons l'ennui d'un quotidien qui peut nous paraître morne. Comment le faire avec douceur et respect, sans compromettre nos valeurs chrétiennes ? Nous sommes tentés par différentes réactions lorsque nous vivons l'opposition. Lorsque les gens nous disent « mais t'es chrétien, t'es fou, pourquoi tu te compliques la vie ? Tu vois bien que dans cette situation-là, tu serais mieux si tu n'étais pas chrétien. Si tu pouvais faire exactement ce que tu as envie de faire, ce serait tellement plus facile, non ?» Et parfois c'est vrai, dans un sens. Et nous sommes tentés par différentes réactions. J'en ai énuméré trois ici. Nous sommes tentés parfois par le repli sur nous-mêmes. Petit à petit, nous sommes de moins en moins au contact de ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Petit à petit, nous n'écoutons plus que des chants de louange. Petit à petit, nous entourons de références bibliques, nous les affichons bien sur nos murs. C'est bien tout ça, hein, c'est bien les chants de louange, c'est bien les versets sur les murs. Mais petit à petit, nous n'avons pas grand-chose d'autre que nos références chrétiennes. Le repli sur soi. L'autre réaction qui va parfois avec, c'est la séparation, c'est le rejet. C'est cette idée que à l'extérieur, c'est dur, c'est mauvais. Il vaut mieux être bien entre nous à l'intérieur. Ou bien, il y a le contraire. Et ça, c'est une réaction qui nous guette tous aussi. C'est la compromission. L'acceptation. Ah ben après tout, les principes chrétiens sont peut-être pas si clairs que ça dans la Bible. Après tout, et on se met à mettre de l'eau dans notre vin. On se met à ménager la chèvre et le chou. On se met à louvoyer et on n'est pas aussi clair. Et on se dit, ah ben finalement, pourquoi ? Parce que nous mettons nos relations avec les gens en priorité par rapport à notre relation avec le Seigneur. Et nous commençons à nous interroger si c'est vraiment aussi important que ça de résister au péché, si c'est vraiment aussi important que ça de glorifier Dieu à chaque instant de tous les jours. Une approche chrétienne saine, c'est aucune de ces trois. Une approche chrétienne saine doit apprendre à distinguer entre trois approches de celui ou de celle qui ne partage pas notre conviction. C'est ce que j'appelle, et j'en parle dans mon premier livre, Une église rayonnante, le livre jaune, c'est ce que j'appelle la distinction entre l'accueil, l'acceptation et l'approbation. La Bible enseigne que l'accueil est un devoir chrétien, individuel et communautaire, du moins dans un premier temps. Certains comportements et certaines situations rendent l'accueil impossible. Et évidemment, nous avons vécu des situations, nous avions deux jeunes garçons, tout petits à l'époque, nous étions en train de travailler avec des personnes et nous ne voulions pas forcément exposer nos deux fils à tous les choix, toutes les décisions de vie de certaines personnes que nous étions en train de côtoyer. Mais cela ne nous empêchait pas de côtoyer ces personnes. Certains comportements, certaines situations rendent l'accueil impossible, mais la grâce de Dieu considère l'autre comme digne d'être accueilli jusqu'à preuve du contraire. L'accueil concerne le premier contact. La relation n'a pas encore trouvé ses repères et tout est possible. L'accueil n'implique pas forcément une invitation dans notre cercle intime, c'est ce que je disais à l'instant, pas même une invitation dans notre foyer, mais il nécessite un sourire, une parole qui ouvre à la relation. Ça, c'est l'accueil. L'accueil permet à mon interlocuteur de revenir, poursuivre la relation et l'approfondir s'il le désire. Ensuite, l'acceptation. La frontière entre accueil et acceptation n'est pas facile à définir. Mais lorsque le temps passe, que la relation dure, le moment arrive où les liens dépassent le stade de l'accueil. Accepter quelqu'un implique que je suis prêt à cheminer un temps à son côté, sans chercher forcément à développer nos rapports au-delà du domaine commun qui nous aura rapprochés à l'origine. Dans le service de Dieu, de nombreuses relations appartiennent au domaine de l'acceptation. Lorsqu'une œuvre de diaconie, comme l'Armée du Salut, nous en entendons parler par Sam hier au culte, lorsqu'une œuvre de diaconie agit en faveur des personnes défavorisées, elle cherche généralement à instaurer un accompagnement qui n'est pas lié à simple accueil. Ce n'est pas juste « bienvenue », c'est « bon, qu'est-ce qu'on va faire ensemble maintenant ?» C'est une relation qui tisse des liens qui peuvent être profonds, durables, et de nombreuses personnes sans engagement chrétien particulier fréquentent nos églises, et c'est super, c'est bien. C'est plus que de l'accueil, ça peut être la réelle amitié. Ça ne veut pas dire qu'on approuve forcément tous leurs choix. C'est notamment dans ce deuxième champ relationnel que se situe, je pense, à une situation que je rencontre très souvent à cause de la spécificité de mon ministère, qui est des parents d'enfants homosexuels. Très souvent, et je corresponds régulièrement avec des parents qui sont dans cette situation-là. Et souvent, c'est comment vivre cette relation-là. Je suis chrétien, c'est pas comme ça que j'ai élevé mes enfants, mais voilà la situation, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et voilà, c'est dans l'acceptation. C'est pas juste un accompagnement. On n'accompagne pas ses enfants, on les accompagne sur le long terme. On les accepte, on se met en situation de vulnérabilité par rapport à nos enfants. Ils peuvent nous faire du mal par leur choix de vie. On ne les lâche pas pour autant. C'est dans le domaine de l'acceptation. Parce que ça ne veut pas dire qu'on approuve tout. L'approbation va plus loin que l'acceptation. Car elle implique une certaine identification, en tout cas dans le domaine moral. Si j'approuve quelqu'un, je suis implicitement en train de dire que dans sa situation, avec ses circonstances, je ferai les mêmes choix. C'est ça l'approbation. Ça ne veut pas dire j'approuve tout sans rien remettre en question. Ça veut dire... dans ce domaine, dans ces circonstances, je ferai le même choix que la personne-là. L'approbation n'implique pas un accord aveugle avec tous les choix et toutes les décisions, mais elle implique une identification morale. Et je dirais qu'une distinction saine entre accueil, acceptation et approbation, c'est la clé pour beaucoup de nos contacts avec des personnes qui ne partagent pas nos valeurs. Comment tu peux être ami avec ces gens-là ? J'ai entendu cette question, je ne sais pas combien de fois. Déjà, j'étais content, parce que ce n'était pas comment tu peux témoigner à ces gens-là ou comment tu peux passer du temps, c'est comment tu peux être ami avec ces gens-là. Et j'avais bien compris que ces observateurs avaient bien compris que j'étais ami avec ces gens-là. Et puis, je dis souvent aussi que mes amis homosexuels, en fait, on avait déjà trop fait de choses ensemble. Quand ils ont découvert que je n'approuvais pas forcément tous leurs choix de vie, eh bien, c'était trop tard pour me traiter d'homophobe. Parce qu'on avait déjà fait trop de choses ensemble, on avait déjà cassé la croûte ensemble, on avait déjà peut-être fait des réunions ensemble, on avait peut-être déjà enterré un compagnon mort du sida ensemble, on avait fait déjà trop de chemin ensemble pour qu'ils disent « ah oui, les chrétiens c'est des homophobes ». On avait été à leur côté, présents au quotidien. Une distinction saine donc entre accueil, acceptation et approbation nous libère pour démontrer la grâce sans la frelater avec le compromis envers le péché. Une telle approche, comme je l'ai dit tout à l'heure, permet aux parents chrétiens d'un homosexuel de continuer à aimer et côtoyer leur fils ou leur fille sans que leur geste manifeste une approbation de son homosexualité. Une église peut accepter l'accompagnement de personnes au parcours conjugal compliqué, c'est certainement le cas de plusieurs d'entre nous ici aujourd'hui, sans que cela signifie une approbation de leurs décisions passées. Ces distinctions nous permettent aussi de placer des limites à une relation lorsqu'elle risque de compromettre un devoir prioritaire, par exemple le devoir d'un pasteur envers toute son assemblée qui ne peut pas se permettre de se consacrer trop spécifiquement à une situation alors qu'il est le berger de toute la communauté. C'est aussi cette distinction, cette limite qui fera que certains parents feront des choix par rapport à un grand frère, une grande sœur et ses choix de vie pour ne pas influencer négativement ses jeunes sœurs et ses jeunes frères. Il y a parfois des limites à tracer. Soyez toujours prêts à vous défendre face à ceux qui vous demandent de justifier l'espérance qui est en vous. J'ai quelques questions qui m'ont été laissées tout à l'heure. Et il y aura aussi l'occasion pour vous, si vous souhaitez lever la main, pour me demander de préciser certaines choses, peut-être. Mais, alors, je savais très bien qu'en racontant certaines histoires, des gens vont me dire « Et comment ça s'est terminé ?» Alors, on me demande de revenir sur l'histoire de ces deux filles qui m'ont demandé, faisant leurs études dans une grande école, qui m'ont demandé pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas se saouler ? Pourquoi, enfin l'alcool, la question de l'alcool. Alors je lis la question, comment reconnaître le seuil et ne pas dépasser en matière d'alcool lorsqu'on est chrétien ? Comment peut-on expliquer, argumenter avec des chrétiens qui pensent qu'ils peuvent être pompettes sous l'effet de l'alcool sans que ça présente un danger ? Alors, je vais simplement vous dire, ne me lapidez pas, je vais simplement vous dire ce que j'ai répondu à ces deux jeunes filles le jour où elles m'ont posé la question. Je leur ai d'abord parlé du respect d'elles-mêmes. Je leur ai dit, pourquoi vous croyez que vos copains, généralement les garçons, vous poussent à boire dans ces soirées ? Et parce qu'une jolie fille qui a trop bu, c'est rigolo. Une jolie fille qui a trop bu, c'est rigolo. Alors respectez-vous. Respectez-vous un petit peu. Réfléchissez à l'image que vous voulez projeter de vous-même. Ce n'est pas parce qu'ils veulent que vous vous amusiez qu'ils veulent vous faire boire. C'est parce que c'est rigolo, ils vont se moquer de vous. Et puis, bon, on a parlé de l'alcool aussi. Alors, je ne suis pas alcoologue, mais il y a des façons de boire. Des façons de ne pas subir autant l'alcool, l'effet de l'alcool. Alors on en a parlé des boissons gazeuses ou pas, alcoolisées gazeuses ou pas. On a parlé de boire l'estomac vide ou pas. Enfin, il y a toutes sortes de choses. Elles m'ont dit, mais jamais personne nous a parlé des détails de l'alcool de cette façon-là. C'est une responsabilité que nous avons en tant que chrétiens vis-à-vis de nos jeunes, vis-à-vis de ça ne suffit pas dans la société, surtout en France, de dire ne buvez pas. Il y a peut-être des contextes dans le monde, j'ai vécu dans des pays musulmans où je n'ai pas bu. On ne boit pas d'alcool si on est chrétien dans certains pays, parce que c'est facile, la plupart des musulmans ils pensent de toute façon les chrétiens ils se saoulent tout le temps. C'est pas vrai. Ils pensent que tout l'Occident, tous les non-musulmans seraient chrétiens. Ben non. Mais alors c'est très facile dans ce contexte-là. Mais alors en France, quand quelqu'un, moi je me souviens, j'étais enfant et nos voisins nous invitaient à prendre l'apéro, et moi ma mère n'a pas bu une goutte d'alcool, enfin à sa connaissance de toute sa vie. Et donc, les voisins nous sortaient leurs meilleurs alcools pour nous faire honneur. Et ma mère disait, vous n'aurez pas du jus de fruits ? Alors moi, juste mordante. Parce que je sentais bien que c'était une façon de nous honorer que nos voisins faisaient ça. Apprendre à réfléchir à la façon dont on boit. Voilà ce que j'ai répondu à ces jeunes filles. Alors je ne sais pas du tout ce qu'elles ont décidé de faire. Tout ce que je sais, c'est qu'elles sont reparties de là avec de la manière à réflexion et j'espère avec la possibilité de faire leur propre choix éthique de manière un peu plus informée. On a aussi parlé du fait de l'alcool nous empêche de... Elle nous fait prendre des choses importantes, elle nous fait croire que des choses importantes ne le sont pas. Elle nous fait croire que des choses banales et bêtes sont hyper importantes. Je ne sais pas si vous avez jamais vu de ces discussions de poivreaux, de ces discussions d'ivrognes, tard la nuit, on est en groupe, on est toute une bande, et puis on se met à parler des choses, c'est 4 heures du matin, et on parle, je ne sais pas moi, de la vitesse relative des escargots et des limaces, et c'est tellement important, c'est l'alcool qui fait faire ça. Des choses qui sont absolument stupides deviennent importantes, et puis des choses hyper importante, comme la manière dont on tient le volant et la vitesse à laquelle on conduit, deviennent pas importantes du tout. La sécurité, l'intégrité physique et corporelle, le sexe, des choses qu'on sait quand on n'est pas pompette sont très importantes, avec un coup dans le nez, ça devient beaucoup moins important, beaucoup plus relatif. Alors on a parlé de tout ça et maintenant je ne sais pas ce qu'elles ont décidé. Qu'a décidé la personne qui travaille dans les films d'horreur finalement? Je ne sais pas, je l'ai perdu de vue. Je sais que quand il a quitté ce congrès, il était parti pour continuer à travailler comme artiste d'effets spéciaux dans le cinéma. Sa prière, c'était que le Seigneur lui permette de gagner sa vie au maximum dans des films intelligents. Alors après, je ne sais pas comment lui définissait exactement ça, mais je sais qu'il est reparti avec cette idée, oui, j'ai un témoignage à porter, il n'y a pas d'autres chrétiens dans ce milieu-là. Certaines des personnes que je côtoie, ben, peut-être que le Seigneur m'a mis sur leur chemin pour être un témoin pour eux. Je vais faire confiance à Dieu de m'envoyer les contrats pour les films où je peux avoir la liberté de témoigner, où je vais prier, je vais demander aux chrétiens qui m'entourent de m'aider, de me soutenir pour que je résiste aux dangers que ce milieu peut présenter. Et maintenant, je ne peux pas vous en dire plus. Et la dernière question qui m'a été transmise ici... Voilà, c'est ça. La dernière question qui m'a été transmise, c'est qu'on m'a demandé de revenir sur ce que j'avais dit à propos de cette écoute d'un journaliste à la radio qui parlait de pédophilie. Je répète un peu ce que j'avais dit parce que certains n'étaient peut-être pas là ce matin. Il était question donc à l'époque des procès d'Outreau, où il y avait eu ce procès pour pédophilie. J'avais entendu une émission à la radio où le journaliste disait, voilà, nous avons un devoir, la société a un devoir de protection des faibles, donc nous devons arrêter et mettre en prison les pédophiles. Il dit ça, c'est acquis. Mais il a dit, nous devons, et c'est le journaliste qui parle, hein, c'est pas moi, il a dit, nous devons nous garder de les juger moralement, parce qu'après tout, c'est de leur sexualité qu'il s'agit. Je vous ai donné cet exemple comme illustration de l'aberration. C'était de cela que j'étais en train de parler ce matin. L'aberration qui nous ferait croire que tout être humain a le droit d'assouvir ses pulsions sexuelles, comme si c'était un droit humain. C'est une aberration. La sexualité, l'assouvissement des désirs sexuels n'est pas un droit. Dans le cadre sain, S-A-I-N, du mariage, le désir sexuel est quelque chose que Dieu a inventé et a mis dans l'être humain. Mais... la société dans laquelle nous vivons nous ferait croire que tout être humain, comme droit fondamental, doit pouvoir assouvir ses pulsions, y compris, et c'est ça que ce journaliste était en train de dire, c'est aberrant, c'est mal de juger une telle personne, parce qu'après tout, c'est de sa sexualité qu'il s'agit, comme si la sexualité était un domaine spécifique à part, ah, on n'y touche pas, il n'y a pas de jugement moral à émettre sur ce sujet-là. Non. Il y a un jugement moral à émettre, et ce que je n'étais pas d'accord avec ce journaliste, évidemment. Voilà. J'espère que ce propos est clair. Est-ce qu'il y avait une autre question que vous aimeriez que je...
Est-ce que d'assister à une mariage homosexuelle, ça communique une
Moi, je pense que non. Personnellement, ça fait un moment que je me suis posé la question, personnellement, je n'hésiterai pas à aller assister. Je répète la question. Est-ce que assister à un mariage homosexuel communique l'approbation de cette union? Moi, je dirais que je n'hésiterai pas à aller, si j'étais invité, à y aller. Cela dit, les gens n'ont pas à chercher sur Internet bien loin pour savoir ma position sur la question. Et puis, je suis dans une situation privilégiée où les gens savent que je suis un ami d'homosexuels. Ils savent aussi que j'ai un discours, que je développe un discours sur l'importance d'être ami sans forcément approuver. Ils n'approuvent pas forcément tous mes choix, je n'approuve pas les leurs. Je crois que c'est un des avantages de vivre dans l'époque post-moderne. Alors j'utilise ce terme de manière précautionneuse, mais nous vivons dans une société qui a perdu ses valeurs absolues. Eh bien, par moment, c'est un problème. Mais par moment, ça nous donne la possibilité de passer du temps avec des gens sans forcément que nous soyons, nous ne vivons plus à l'époque où simplement aller quelque part avec quelqu'un nous identifie à leur choix de vie. Moi, je dis souvent ça de la façon suivante. Je peux aller boire un verre avec un ami homosexuel. Je ne vais pas le faire dans un bar gay. Voilà, je crois que la différence, elle se situe là. Alors après, les circonstances particulières, je parle aussi souvent ce genre de choses. Je dis que c'est un choix éthique curseur. Un curseur, c'est qu'il n'y a pas un vrai et un faux, un juste et un faux. Un curseur, on va placer le curseur à un certain endroit. Pour moi, dans mes circonstances, avec ma personnalité, je vais mettre le curseur là. Bien, un autre chrétien va peut-être le mettre là, ou là. Et la priorité de Jésus, juste avant de mourir, dans Jean 17, c'est que nous sachions nous aimer et le montrer aux gens. Et non pas nous pinailler, nous disputer. Ah, lui, il est mauvais chrétien parce qu'il a mis le curseur ailleurs que moi. Lui, il est allé à un mariage homosexuel. On me demande souvent, et je m'étonne que ce ne soit pas la question qui m'a été posée, est-ce que moi, j'aurais béni, en tant que pasteur, un mariage d'un couple homosexuel? Alors, c'est très, très difficile. Et lorsque j'ai été interpellé par la commission d'éthique protestante évangélique à ce propos, pour les aider à formuler un texte, et une des choses qui est gardée dans ce texte, qui est disponible sur Internet assez facilement, venez me poser des questions si vous voulez, c'est comment est-ce que les pasteurs et les églises doivent réagir à ce cas de figure. Je dirais que c'est plus compliqué encore qu'assister, c'est est-ce qu'on va bénir ou pas. Évidemment, on ne peut pas bénir quelque chose que Dieu ne considère pas comme une union. Par contre, on peut bénir les gens, on peut prier pour les gens. Alors, ce que cette déclaration a gardé, c'est il faut que nous sachions accueillir les demandes de bénédiction. Il faut que quand deux homosexuels viennent demander une bénédiction, un pasteur puisse dire, bon, pourquoi est-ce que vous voulez demander la bénédiction? Pourquoi est-ce que vous voulez que Dieu... Parce que souvent, c'est simplement parce que Dieu, ce sont des gens qui veulent que Dieu fasse partie de leur histoire. Peut-être qu'ils n'en savent pas plus que ça. Et nous aurions tort de construire un mur immédiat en disant, ah, on ne fait pas ça ici. L'autre question, c'est lorsque maintenant des familles... Moi, je connais une situation où deux dames qui sont mariées ont adopté deux jeunes filles sud-américaines. Et elles aiment leur église locale. Elles ont envoyé, c'est une CAF, c'est une CAV, Communauté des Assemblées Évangéliques de France. Elles ont envoyé leurs deux filles adoptives faire le catéchisme dans l'église. Elles trouvent que les chrétiens sont super. Ces deux dames, elles sont à deux doigts de se convertir, de venir à Jésus. Qu'est-ce que l'église va faire? Ce sont deux jeunes filles ce sont deux petites filles qui dépendent de leurs deux mamans. C'est leur unité familiale, qu'on le veuille ou non. Comment est-ce que l'Église va répondre à ce genre de cas de figure? Ça, c'est de l'éthique vraiment au pied du mur. Et je milite pour que nous ayons à l'avance, au préalable, une position réfléchie. Je vais prendre 2 minutes maintenant pour une petite histoire, pour conclure. J'aimerais que ce soit l'histoire avec laquelle vous vous souveniez de tout ce que j'ai dit aujourd'hui. C'était il y a quelques années, j'étais moniteur d'école du dimanche dans une église loin. Et à la fin de l'école du dimanche, notre classe de catéchisme était il y avait un baby-foot dans la pièce. Alors souvent à la fin du culte, il y avait les enfants qui venaient et d'autres classes et qui venaient jouer au baby-foot. Alors ce jour-là, j'étais en train de ranger mes affaires d'école du dimanche, donc on range les crayons et tout ça. Et puis il y a trois garçons qui sont venus et qui sont mis à jouer au baby-foot. Il y avait dans cette église une petite fille que j'appelle Justine pour les besoins de l'histoire. Et Justine venait d'un passé social très très compliqué. Elle avait une déformation du visage. À l'école, on l'appelait la Guenon. C'était son surnom parce qu'elle n'avait pas reçu les soins d'orthodontie qu'elle aurait dû recevoir. Et elle découvrait l'église. Et elle aimait l'église. Elle aimait les gens qui faisaient attention à elle, les chants et tout ça. Et Justine avait peut-être 2-3 ans de moins que les... Bon, il y avait 3 garçons. Un grand... qui jouait contre les deux autres, hein, au baby-foot. Donc les deux allaient, on va dire qu'ils avaient 7-8 ans, et puis le grand qui avait 10-11 ans, de l'autre côté du baby-foot. Ils étaient en train de jouer, et puis Justine s'est mise là, elle est arrivée, et elle met les bras sur le bout du baby-foot, en train de regarder les garçons jouer, tout admiratif de ces grands garçons qui jouaient au baby-foot. Les deux plus jeunes, ils battent le plus grand. Ils disent, on fait la belle. Ah bon, on fait la revanche. Alors, ils décident peut-être de mélanger les équipes. Et c'est là que Justine, moi j'écoutais ça d'une oreille, là, puis c'est là que Justine dit, et moi, je peux jouer? Et moi, qui me veut dans son équipe? Alors vous savez, les garçons à 11, 10, 11 ans ne sont pas reconnus pour leur sensibilité à ce genre de situation. Moi je dis, pourvu qu'ils répondent la bonne question. Et il y a eu un moment d'hésitation, je l'avoue, mais le grand garçon il a dit, moi je te veux, viens dans mon équipe, on va les battre. Vous auriez dû voir le visage de Justine. Vous auriez dû voir le visage de Justine. Et quelque part, quand je lis les évangiles, je lis un peu ça chez Jésus. Vous voyez la façon dont il accueille ses disciples, dont il les appelle. Et on a l'impression que ben, ce sont des gens, ils n'avaient pas forcément tous les moyens de prendre toutes les décisions éthiques bien cadrées. Ils venaient de différents milieux, il y en a qui étaient collabos avec les Romains, il y en a d'autres qui savaient surtout pêcher des poissons et pas grand-chose d'autre. Il y en avait, ben, ils venaient de tous les horizons, de tous les milieux. Jésus leur a dit, viens, fais équipe avec moi. Et c'est un petit peu ce que Jésus nous dit ce matin, enfin cet après-midi, pardon, aujourd'hui. Jésus est en train de nous dire la même chose. Et comme Justine, il continue à nous dire à tous, viens faire équipe avec moi. Alors vous avez peut-être dit, moi, Jonathan, il a parlé de décisions éthiques compliquées, peut-être. Je suis désolé. Ce que j'aimerais que vous souveniez, c'est que quelles que soient les décisions avec lesquelles vous vous débattez, quelles que soient les relations ou les remises en question de votre foi, vous faites partie de l'équipe de Jésus si vous êtes son enfant, si vous êtes sauvé, si vous avez donné votre vie à Jésus, si vous êtes chrétien. Lui, il vous dit, viens faire équipe avec moi. C'est une invitation que je vous lance, que je vous laisse. Au-delà de toutes nos discussions, c'est ça qu'il faut retenir. Jésus est de notre côté, il veut faire équipe avec nous. Je vous invite à la prière.